Session de théologie par le Père Jean-Marie Arimont sur l'Église, peuple et famille de Dieu, le 20 mars 1998, troisième conférence.
Alors, en conclusion de ces quatre modèles dont j'ai essayé d'établir qu'ils soulignaient chacun un aspect particulier qui allait nous faire rentrer dans l'intelligence de ce qu'est l'Église, il y aura en parallèle, alors là, une réflexion, je l'indique principalement pour les frères, et puis bon, pour chacun, si vous avez un habitus philosophique, qui sera faire sur la communauté politique. Et qu'est-ce qu'une communauté politique? Comment ça fonctionne? Sous quel mode ça fonctionne? Quelle est l'intelligence que j'ai de la communauté humaine? Alors, maintenant, nous allons faire un voyage de la révélation à Vatican II. En regardant les grands lieux qui vont être constitutifs du donné de la foi. Alors, il est important là de saisir et la spécificité d'une démarche théologique. Quand je fais de la théologie, ben, je me fais mendiant de ce que Dieu me dit. Et je ne vais rien inventer du tout. Mais c'est ça qui est frustrant un petit peu pour l'intelligence. Je ne vais pas sortir des trucs extraordinaires, non, tout simplement, j'essaie de recevoir le donné révélé. Ce donné révélé, quel est-il? Ben, c'est l'Écriture et la tradition. Donc ensemble, rapidement, on va faire une... Voyons, on va essayer d'aller dans les grands lieux où le donné révélé nous parle de l'Écriture. On verra, ça ira... Pardon, on nous parle de l'Église. Excusez-moi. On s'éira de l'alliance au Sinaï jusqu'à, l'Empire carolingien. Vous voyez, il y a des choses intéressantes dans l'Empire carolingien. La théologie d'Alcuin est intéressante pour l'ecclésiologie. Vous n'en doutez pas. Alors, voilà, ça c'est le programme. Il y a une question qui est intéressante, que je me suis réservée pour pouvoir y réfléchir ensemble. Suite à la réflexion que nous avons eue tout à l'heure, il m'est dit la chose suivante. Si par mon baptême, quoi que je fasse, je suis en communion avec Dieu, à quoi sert une règle de vie? À quoi sert la loi? Les religieux sont habitués à une règle de vie depuis Saint-Benoît, etc. Pourquoi les laïcs n'ont pas de règle de vie? Alors, si vous voulez, il y a deux questions dans tout ça. Je crois que l'arrière-fond, c'était cette affirmation, tout ce que l'on fait pour Dieu, ça ne sert à rien. Et je la maintiens. Je persiste et je signe. Qu'est-ce que c'est qu'une règle de vie? Une règle de vie, c'est l'expression de la vie divine en moi. Mais c'est une sacrée prétention, une règle de vie. Autrement dit, c'est l'exercice de ma vie divine. C'est pas un exercice voulu par les hommes, c'est confirmé par l'Église. Dans son charisme de gouvernement, et le propre du gouvernement de l'Église, c'est que la grâce chrétienne puisse s'exprimer dans la vie humaine. Donc une règle de vie, c'est le lieu où s'exprime, pour celui qui vit selon cette règle, sa vie baptismale. Oui, ça va loin. C'est pas de l'annexe. Et il est toujours vrai de dire, quoi que je fasse, je suis en communion avec Dieu. Vous voyez, puisque la règle de vie est l'expression pratique de la vie baptismale, il faut comprendre, vous voyez, derrière ça signifie notre rapport à la vie baptismale. Alors je vais juste souligner un point. Vous voyez, par le baptême, je vis comme un sauvé. On verra ça à travers les affirmations de Saint Paul quand il parle de l'Église. Vous voyez, par le baptême, je suis sauvé. Je ne me prépare pas à recevoir le salut. Donc le chrétien, on peut dire, saint Paul le dira, que c'est un saint. Il est sauvé. Et toute sa conduite de vie consiste à vivre selon ce salut. Et non pas pour obtenir le salut. Autrement dit, nous n'avons pas à vivre pour obtenir le salut. Le salut, c'est un fait réalisé par le Christ, avec la pleine efficacité de la croix du Christ. Vous voyez, j'ai rien à ajouter à l'efficacité de la croix du Christ. La croix du Christ est en elle-même efficace, et elle donne en elle-même le salut. Et l'existence chrétienne, c'est de vivre selon ce salut. Ceux qui s'intéresseraient, vous avez un très beau commentaire du chapitre 5 de l'Épître. De l'Épître aux Galates de saint Paul, commenté par saint Thomas. Et ce passage est extraordinaire où saint Thomas montre combien l'ancienne alliance était le lieu où, par la pratique de la loi, j'obtenais la récompense divine, alors que la nouvelle alliance et la récompense divine, c'est déjà fait. C'est déjà fait par la croix du Christ. Donc c'est une source de vie à laquelle je dois me conformer. Autrement dit, vous voyez, tous les petites images qu'on a en nous, et je suis persuadé que c'est inscrit dans le cœur de chacun d'entre nous, vous voyez, c'est « Seigneur, j'ai fait ça, bon, maintenant tu me donnes ton salut ». Elles sont fausses, ces images. Vous voyez, la représentation du grand livre où on a fait quelque chose de bien d'un côté, quelque chose de mal de l'autre, et puis à la fin, Saint-Pierre qui fait le calcul, vous savez, ou sinon, vous voyez, l'histoire de la balance. Et allez voir à la cathédrale d'Albi, ces six belles représentations du jugement. Mais c'est si belle représentation du jugement où il y a la balance, et puis oui, on pèse les œuvres. Alors il y a le démon qui tire, et puis il y a Vierge Marie qui pousse. Voilà, comme ça pour l'équilibre, vous voyez, la miséricorde et l'accusateur. Et c'est important de voir que très souvent nous sommes selon ce schéma. Mais je vous le dis tout de suite, c'est hors de portée de gagner le ciel. En revanche, c'est excessivement facile de le recevoir. Ce qui est plus difficile, c'est de vivre selon le don reçu. Donc vous voyez, la vie baptismale de la nouvelle la vie baptismale, celle de la nouvelle alliance, consiste pour chacun d'entre nous de vivre selon le don que nous avons reçu. Vous voyez, un petit témoin extraordinaire, c'est notre manière de vivre psychologiquement du sacrement du pardon. On se confesse et puis on dit super, ça y est maintenant. Nickel. Bon, et après je me retrouve avec mes problèmes au carré parce que ça me met le moral à zéro de savoir que de toute façon je vais recommencer. Parce que je m'imagine capable de ne pas recommencer. Vous voyez, et c'est pas possible, ça ne sert même pas de s'imaginer ça. Ça ne sert à rien d'imaginer ça. Vous voyez, ce que je dois découvrir, c'est le don du pardon. Il m'appelle à vivre selon ce pardon. Et non pas vivre du pardon comme si je retournais dans un état où je suis tout seul et puis après j'essaie de me débrouiller, puis Dieu, plus ou moins, étant celui qui m'aide. Vous voyez, là je crois qu'il y a vraiment une notion fondamentale, je ne vais pas insister. Alors après, il est demandé, la deuxième question, c'est pourquoi les laïcs n'ont pas une règle de vie? J'espère qu'ils en ont une. Hein. C'est le problème. Alors, elle est plus difficile parce qu'elle n'est pas écrite et donnée par... Mais il y a une règle de vie en principe. Hein. Tout le monde a une règle de vie. Je ne sais pas, les grandes intentions de l'Évangile qu'on applique dans notre existence. À ce lieu, tu adoreras. C'est quand même un chemin de règle de vie, ça, non? Pas comment vous faites, mais... Tu ne commettras pas le meurtre. Bon, on le voit à peu près physiquement, spirituellement, c'est plus difficile. Mais l'assassinat de ses frères dans son cœur, ça aussi, c'est une bonne règle de vie, hein, de se dire, bon, voilà... Et puis, après, il y a des spécificités de règles de vie qu'on peut rencontrer. Bon, c'est, pour un laïc, ça peut être le cas d'une oblature. Et une oblature signifie « je vis de l'esprit d'une règle de vie monastique », avec des traits particuliers et spécifiques. Ça peut être aussi une règle de vie d'une spiritualité. Pensons à la spiritualité dominicaine ou ignatienne, qui demande une certaine règle de vie. Donc, vous voyez, la question, c'est pourquoi les laïcs n'ont pas de règle de vie? Ils en ont une. Déjà, faut-il qu'ils le sachent? Et troisièmement, vous voyez, faut-il qu'ils le choisissent? Il y a la règle de vie commune, vous voyez, c'est la règle de l'Église par rapport à la pratique religieuse. Une fois l'an, à Pâques, tu communieras et te confesseras. Bon, c'est déjà pas mal de commencer par là. Après, il faut demander au Seigneur de mettre une soif un petit peu plus grande. Et là, on rentre dans une règle de vie. Alors, maintenant, se donner révélé. Quels sont les grands axes que me laisse l'Écriture pour comprendre le mystère de l'Église ? Là, je vous renvoie au chapitre 12, verset 3 du livre de la Genèse. Alors, ces références notées, vous irez les lire après, qui nous parle de la promesse. Là s'enracine le mystère de l'Église, la promesse faite à Abraham. Nous sommes à l'aurore de l'histoire du salut. Et la réalisation de la promesse faite à Abraham, c'est le mystère de l'Église. Vous voyez, autrement dit, par l'Église, je rejoins une intention de Dieu. Je ne suis pas dans le conjoncturel, oui. Tiens, il y a un problème, qu'est-ce que je fais face à cette situation ? Tiens, Jésus se dit, je crée l'Église. On pourrait réfléchir comme ça, vous voyez, c'est vrai que ce serait relativement simple. Surtout, on a dans l'Église à faire une communauté humaine, donc une structure particulière qui est liée aussi à un conditionnement culturel. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est quelque chose qui reflète une intention divine. Cette intention divine, c'est Dieu qui réalise sa promesse. Et le premier lieu de la réalisation, c'est Israël. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler de l'Église sans parler un petit peu d'Israël. Là, je vous renvoie au chapitre 9, verset 4 de l'Épître aux Romains, que je vous lis parce qu'il est vraiment important, ce verset. Ils sont israélites, à eux l'adoption filiale, la gloire, la disposition de l'alliance, la législation, le culte, les promesses. Autrement dit, vous voyez, c'est important, la notion d'Israël. Israël est le premier lieu dans lequel va pouvoir se formuler l'engagement de Dieu dans l'alliance. Et la constante qui nous fait, et qui a mis en lumière le souverain pontife dernièrement, quand il a parlé d'Israël, il a repris le verset 29 du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, en disant que irrévocables en effet sont les dons et l'appel de Dieu. Vous voyez, on a quelque chose d'irrévocable. Israël, c'est pour nous un lieu où nous avons à apprendre à découvrir la façon dont Yahvé vient tisser son alliance avec les hommes. Alors, à travers ça, essayons de rentrer dans l'intention divine. Quelle est l'intention de Dieu en réalisant cette promesse ? L'intention fondamentale, c'est sa bienveillance à l'égard de l'homme. Là, je pense que tous vous avez fait une sorte de petite catéchèse sur l'histoire du salut, donc je ne vais pas y revenir. Et cela se réalise doublement. D'abord, d'une façon personnelle, et après, d'une façon communautaire. D'une façon personnelle, c'est l'alliance avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et cela aura une répercussion communautaire. Autrement dit, la communauté que deviendra Israël débute par l'alliance que Dieu fait avec telle personne, avec les patriarches. Et c'est la fécondité de cette alliance qui fera naître une communauté. Alors, il y a un passage très, très intéressant au chapitre 9 de la Genèse, l'arche de Noé, où juste avant ces chapitres, on était dans la logique « L'homme fait des bêtises, Dieu punit ». Mais pour ça, pensez à l'art baroque. C'est l'art baroque où on représente un triangle dans lequel il y a un œil, et dessous il y a marqué « Dieu te voit dans le secret ». Glacial. Autrement dit, ah ah ah, là tu t'es caché, t'inquiète pas, je t'ai vu. Donc vous voyez, bon, c'est... Et souvent, c'est vrai qu'on pense, les choses de la façon suivante, hein, c'est « je fais une bêtise, Dieu me punit ». Et on voit ça d'une façon extraordinaire dans la Genèse. Pensez à Sodome et Gomorre. L'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, nous garantit, et ça il y a un passage extraordinaire, hein, nous garantit l'engagement définitif de Dieu à l'égard de l'homme. Ça, c'est un principe qu'il faut inscrire en nous. C'est une des constantes de la révélation. Autrement dit, quoi que l'on fasse, la miséricorde de Dieu est garantie à toute l'humanité. Et je suis plus simplement dans une logique « j'ai fait une bêtise, Dieu me punit ». C'est même comme Dieu me punit, il me punit pour me faire grandir. Et non pas pour m'exclure. C'est pour ça que les pères de l'Église utiliseront l'arche comme le modèle parfait de l'Église. Autrement dit, le peuple racheté. Oui, alors vous pouvez, même chez Saint-Pierre, hein, la première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 20, où Saint-Pierre compare l'Église à l'arche de Noé. Alors il y a quelque chose d'intéressant, hein. Quel est le sens de l'arche? C'est Dieu reprend tout et établit quelque chose de nouveau. Il sauve l'homme du déluge. Il va constituer une communauté de sauvés qui ne vit que de la miséricorde de Dieu, parce que c'est une pure miséricorde que Dieu fait à Noé. Alors, il y a un autre lieu très important que l'on voit déjà avec Abraham, c'est le sens de la circoncision pour Israël. La circoncision, c'est le signe de l'appartenance au peuple. Et toute la symbolique de la circoncision, c'est d'appartenir à Dieu. Alors, on verra au cours de l'histoire de l'économie divine, hein, que ce signe d'appartenance, il deviendra, vous voyez, la véritable circoncision. Hein, chez les prophètes, c'est le cœur brisé, c'est le cœur se faisant suppliant de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, on a un élément purement physique qui est le signe de ce que doit être l'appartenance de l'homme à Dieu. Deuxième chose importante dans l'histoire du salut, c'est l'alliance du Sinaï. Alors, il est important de toujours revenir à la lecture d'Exode 14. Tout de suite, vous voyez de quoi je parle. C'est la libération du peuple d'Israël. Ça, c'est le fait sur lequel, vous voyez, tout l'Ancien Testament reviendra. C'est le fait central de l'Ancien Testament. Et que se passe-t-il dans cet exode? C'est que Dieu constitue une communauté D'abord, de gens libérés. Alors ça, c'est important. C'est de voir que, voyez, Dieu libère son peuple. Dieu libère l'homme. Alors immédiatement, la signification hein, que l'on découvrira dans le Nouveau Testament. Et Dieu vient libérer, le Christ vient libérer l'homme du péché. Et c'est ce qui le fait appartenir à la communauté qu'est l'Église. Autrement dit, voyez, la première appartenance à l'Église, elle s'inscrit dans cette notion de libération. Parce que n'oublions pas, hein, voyez, le terme de l'Exode, hein, c'est la terre promise. La terre promise, après, avec toute la succession historique, hein, de la division des différents, d'abord des deux royaumes, après des différents États, qui sont le fruit de chacune des tribus. Seule la tribu de Lévi n'ayant ayant le Seigneur comme héritage. Donc vous voyez, il est important de voir que le thème de cette libération, c'est mettre Israël dans une terre. Mais chose importante, c'est que pour passer par là, ben, il faut que l'Israël soit libéré. Et entre cette libération et l'établissement en terre d'Israël, là, il y a une éducation merveilleuse de Dieu. Il faut souvent revenir à ça hein, pour comprendre la façon dont le Seigneur nous éduque. D'abord avec une inefficacité apparente, ça c'est clair. Mais ceux qui sont allés un peu dans la région, et 40 ans pour passer dans ce désert, ont l'impression qu'ils ont vraiment marché sur leur mouchoir toute la journée. Ou faire le tour de leur mouchoir. Donc vous voyez, l'efficacité, zéro. Et la topographie divine, hein, c'est sûrement pas celle de l'Institut de Géographie Nationale. Vous voyez, donc autrement dit, ce qui est important, c'est le laps de temps. Non pas tellement le chemin parcouru. Et dans ce laps de temps, Dieu vient donner les principes fondamentaux qui vont régir Israël. Alors rapidement, ces éléments fondamentaux, quels sont-ils? C'est l'émergence de la fidélité de Dieu au regard de la réponse absolument ingrate de l'homme, il est infidèle. Lisez un petit peu l'Exode, vous allez voir, c'est... Dieu est à la remorque de l'humeur de l'humanité. D'un côté, tout le monde est gentil, le lendemain, tout le monde est contre Dieu. Le premier jour, la manne, c'est extraordinaire. Trois jours après, il y en a marre. Et bon, voilà, c'est... Ça, c'est la constance du cœur de l'homme, jamais content. Malgré ça, vous voyez, la trame, c'est Dieu reste fidèle. Lui, il reste fidèle, il reste présent. Et c'est le moment où toutes les structures liturgiques, les structures de gouvernement, de manière de vivre, les lois vont être données. Alors, la structure première, hein, il est clair, hein, c'est le décalogue. Qui vient inscrire sur des pierres l'esprit dans lequel il veut que la communauté vive. Et la loi, c'est quelque chose d'important, puisque la loi, c'est ce qui va régir l'existence. Après, il va enseigner au peuple d'Israël comment lui rendre un culte. Et tous les préceptes liturgiques. Jusqu'à faire comprendre à Israël comment on va construire un temple, comment on va construire un sanctuaire, comment, au point de vue architectural, on va manifester la présence divine. L'arche de l'Alliance. Le Saint des Saints. Autrement dit, vous voyez, Dieu donne tout. À tel point, si vous avez le courage d'aller lire le livre des Nombres, vous voyez, on a des précisions au centimètre près. Et Dieu est là pour véritablement dire, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez comme ça. Et c'est la manière dont vous allez vivre. Et après, le dernier aspect, c'est ayant donné... des mœurs, entre guillemets, à cette communauté, ayant éduqué cette communauté, il va donner à cette communauté un lieu. Alors, sur ce lieu, on a beaucoup de choses à dire. Là, je vous renvoie un ouvrage qui, à mon avis, est la grande, grande référence pour comprendre un petit peu tout ce mode de fonctionnement. C'est un ouvrage du père Devaux qui s'appelle Les institutions en Israël. Si jamais vous avez l'occasion, je crois que ça a été réédité. C'est un livre qui a été écrit dans les années 50 et qui fait toujours référence. On comprend un petit peu ce que signifie le rapport du peuple d'Israël à la terre, par exemple. Et il y a dans l'installation Terre Promise une très belle chose, c'est la place de la tribu de Lévi. Chacune des tribus a un morceau de terre. Et puis c'est extraordinaire la façon dont ça se faisait. Hein. Chaque tribu avait un morceau de terre et chaque famille avait un morceau de terre. Et la façon dont on délimitait le morceau de terre, c'est on prenait sa sandale, on l'achetait le plus loin possible, et son territoire, ça restait où la sandale atterrissait. C'est extraordinaire. Mais d'où l'expression dans le psaume, sur Édom, je jette ma sandale. Mais j'espère que chacun d'entre vous aviez compris ça. Vous voyez, et cette constitution de la terre, pour la tribu de Lévi, il est dit, Lévi n'a pas de terre, la part de son héritage, c'est le Seigneur. Pour montrer, vous voyez, la relativisation de cette terre, concrète. Pour montrer que le lieu véritable dans lequel on doit prendre possession, eh ben, c'est Dieu. Et c'est le pourquoi de la présence de la tribu de Lévi. Mais chose importante, c'est de voir que dans l'histoire, et on le voit encore aujourd'hui, hein, souvenez-vous les slogans de M. Ben Gourion, avant l'installation, après la Shoah, sur la Palestine. Hein, c'est le slogan qui était d'un mensonge, mais claquant, et on a tous accepté ça en tapant des mains. C'est une terre sans peuple, un peuple sans terre. Vous voyez, ça, c'était le motif de l'installation du peuple d'Israël. Vous voyez. Donc, autrement dit, un rapport à la terre qui est tellement viscéral que s'il n'y a pas la terre, il n'y a plus le peuple. Et on le verra dans l'économie divine à travers l'exil. Là, c'est la catastrophe, l'exil. Pourquoi ? Parce que Israël perd la terre que Dieu a donnée. Et donc, Israël perd son identité. Et on voit bien, la grande épreuve du peuple d'Israël, c'est l'exil. Et le grand mouvement prophétique de l'exil, hein, c'est de faire comprendre aux Israélites que le véritable lieu où ils sont, c'est Dieu. Là, ils ont du travail, hein, les prophètes. Et de voir qu'il y a une telle imbrication entre Israël et la terre, qu'en fin de compte, vous voyez, Israël va devenir matériel. Et tout le courant prophétique, hein, toute l'éducation de Dieu, c'est pour faire comprendre que Israël, c'est pas simplement un territoire. C'est avant tout un peuple qui appartient à Dieu. Autrement dit, c'est pas la terre qui fait Israël, c'est Dieu qui fait Israël. Alors là, je vous cite Isaïe et Ézéchiel. Hein. Alors Isaïe chapitre 40, verset 11, ou Ézéchiel chapitre 34, verset 11, où en fin de compte, Israël est le troupeau dont Dieu est l'unique pasteur. Et Israël comme peuple. Vous voyez, ça c'est vraiment important, parce que quand on utilisera l'analogie d'Israël pour parler de l'Église, vous voyez, l'analogie elle portera pas sur la façon dont Israël a été vécu dans sa lutte et son attachement à la terre. Mais on en parlera, vous voyez, de l'attachement d'Israël à Dieu. Donc vous voyez, une communauté humaine reliée à Dieu dans un lien de dépendance à l'égard de Dieu. Alors, il y a encore deux moments importants dans l'Ancien Testament, c'est le moment prophétique Et puis après, Israël comme l'aurore de l'Église, que l'on verra aussi dans la fin du mouvement, ce qu'on appelle les petits prophètes. Alors, vous voyez, le mouvement prophétique vient introduire une analogie qui est extraordinaire. C'est l'analogie nuptiale. Autrement dit, l'alliance entre Dieu et Israël, c'est une alliance entre un époux et une épouse. Et vous voyez, derrière ça, c'est, cet arrière-fond, c'est pour, vous voyez, désenclaver le rapport d'Israël à la terre. Savoir que, vous voyez, Israël est constitué du fait de l'intimité qu'elle a avec Dieu. Alors, vous allez voir la conséquence immédiate et pratique de cela. C'est que, bien souvent, vous voyez, l'appartenance à l'Église, c'est je suis tombé dedans quand j'étais petit. En revanche, l'engagement nuptial, c'est pas je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça nécessite un choix. En principe, hein, moi j'espère. Non ? Vous voyez, et là, il y a quelque chose d'important parce que, vous voyez, l'attachement à la terre d'une façon matérielle, on peut le reproduire de façon très diverse. Hein. Penser. Je sais pas moi, s'il y a des Irlandais ici, j'espère que je ne vais pas dire trop. De la même façon, bon ben voilà, j'ai été baptisé, j'appartiens à l'Église. Vous voyez, j'appartiens à l'Église si je rentre dans cette dimension nuptiale. Et pas simplement si j'ai l'étiquette sur le front, catho, baptisé, telle date. Vous voyez, ça c'est important de voir. Et l'éducation du courant prophétique est là pour faire rentrer le peuple d'Israël dans un engagement personnel à l'égard de Dieu. Le dernier aspect que l'on voit au terme du courant prophétique, c'est la place d'Israël par rapport au monde. Autrement dit, Israël est le petit troupeau qui a comme vocation de montrer l'attitude de Dieu à l'égard de l'ensemble des hommes. Autrement dit, ce n'est pas une communauté fermée, c'est une communauté ouverte. Elle a comme vocation dans le monde de signifier l'alliance de Dieu avec les hommes. Autrement dit, être israélien n'est plus une garantie territoriale et culturelle, être israélien, c'est rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et c'est immédiatement ce sur quoi va se greffer saint Paul quand il parlera à l'Israël de Dieu, paye miséricorde. Et quand il dira à l'Israël de Dieu, il pense à l'Église. Autrement dit, vous voyez, le passage entre Israël et l'Église s'appuie sur cette légitimité, qui fait que Israël a comme mission de manifester l'alliance que Dieu veut tisser avec tous les hommes. Et cette alliance, elle touche tout le monde. Et ça, c'est un aspect important à comprendre. Ce qui donne à Israël une vocation particulière dans l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire. Hein. Pensez que pendant 20 siècles, Israël a complètement disparu de la pensée chrétienne. C'est impressionnant. Pendant 20 siècles, on n'a absolument pas parlé. Vous verrez aucun texte du magistère qui vous parle d'Israël. Il faut attendre ce 20e siècle pour qu'on nous parle du mystère d'Israël. C'est quand même chose étonnante. En s'appuyant sur le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, c'est que la promesse de Dieu, elle est irrévocable. Et donc la redécouverte du mystère d'Israël, c'est redécouvrir que l'homme doit manifester dans son existence, pour l'ensemble de l'humanité, que Dieu veut s'unir aux hommes. Quand même extraordinaire. Et ça, c'est le destin particulier qui sera le destin de l'Église. Alors nous regarderons ce soir quels sont les grands axes que nous donne le Nouveau Testament. sur l'Église. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit, et puis on y répondra dans les groupes de questions-réponses.